et on va laisser la place maintenant à Magali Koldéfi, qui est docteur en géographie, maître de recherche à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, l'IRDES donc, pour venir nous parler de son abord, elle, du diagnostic territorial de santé mentale. Comment réussir ce diagnostic ?
Oui, donc bonjour à tous. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, puisque finalement, ça... C'est presque une synthèse de tout ce qui a été dit ce matin et notamment la dernière présentation. Donc je vais passer assez vite. Donc au départ, c'était rappeler pourquoi on fait un diagnostic et ça a été expliqué. Le diagnostic territorial partagé en santé mentale, il doit être à la base du projet territorial de santé mentale. Donc on en a beaucoup parlé ce matin. Mais ce sur quoi je voulais insister, parce que finalement les données vont aussi avoir tendance à faire de l'hospitalocentrisme ou de la psychiatricentrisme, c'est que l'objectif du projet territorial de santé mentale, c'est bien le parcours de santé et de vie, donc pas seulement le parcours de santé mentale, la santé avec la place des médecins généralistes, et le parcours de santé et de vie au sens global qui intègre bien l'environnement des personnes, la prévention, le médico-social. Voilà. Et donc le diagnostic, normalement, il doit essayer de répondre à cet objectif-là. Donc dans la loi, le diagnostic, il est décrit comme comprenant un état des ressources disponibles, ayant pour objectif d'identifier les insuffisances dans l'offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et dans l'accessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et préconiser des actions pour y remédier. Alors pareil, ça a été présenté un peu par l'ARS Rhône-Alpes, ça doit s'intégrer aussi dans d'autres diagnostics territoriaux partagés qui sont faits dans le champ de la santé en général, et c'est vrai que la psychiatrie et la santé mentale a un traitement spécifique dans la loi qui doit trouver une cohérence avec ce qui est demandé pour la politique de santé globale. Donc pareil, un diagnostic partagé en santé mentale ou un diagnostic territorial, c'est quoi ? C'est que ce qui vous a été présenté juste avant et ce que je vais vous présenter, c'est qu'une toute petite partie du diagnostic, c'est la partie un peu production de données objectives pour qu'ensuite il y ait un partage autour de ces éléments objectifs et avec toute une approche plus nuancée du territoire qui confronte la vision des différents acteurs de ces territoires. Et je pense, pareil, pour aller vite, que ce sera davantage présenté cet après-midi, notamment par la méthodologie développée par l'ANAP dans certaines régions. Et c'est aussi quelque chose qui est bien explicité dans un guide produit par la NCREA et la CNSA sur le guide méthodologique pour construire un diagnostic territorial partagé. Parce que travaillant particulièrement avec une ARS, des fois, on attend beaucoup du diagnostic territorial et des données, sauf qu'à la fois, elles ont leurs limites. Et le diagnostic, c'est plus qu'un bilan des ressources. Donc, quelles données on peut mobiliser ? En fait, pourquoi l'ADRES a proposé de réaliser cet atlas psychiatrie santé mentale ? C'est que les sources d'informations sur le champ de la santé mentale sont nombreuses et dispersées sur des champs variés, non accessibles à tous. Ce qu'on a vu sur la GHT parisienne, pour le moment, c'est en train d'être mis en place pour les GHT, mais les établissements ont difficilement accès aux données, on va dire, collectives de plusieurs établissements sur un territoire. Et puis, il y a tout ce qui est des données qui ne sont pas hospitalières, qui sont plus ou moins accessibles et plus ou moins techniques, on va dire, à appréhender par des personnes. Et j'ai envie de dire, avec des ressources et des compétences inégales entre les régions et les territoires. Donc l'objectif de cet atlas, c'était donc d'aider les acteurs à réaliser leur diagnostic territorial en fournissant un set d'indicateurs utiles à l'élaboration du diagnostic, donc qui mobilise ces nombreuses sources de données et qui permet de se comparer aux autres, comme ça a été dit précédemment. Puisque c'est vrai que ce n'est pas l'idée de se comparer, d'atteindre une norme, mais c'est justement plutôt poser des questions en disant tel taux, telle durée est différente dans ce territoire que dans tel autre, tel taux de recours aux soins sans consentement est différent. Ça ne veut pas dire que les différences sont... Il n'y a pas de notion de jugement, mais c'est plutôt essayer d'interroger ces disparités. Alors les limites de cet atlas, c'est que y a des champs qui sont attendus d'un diagnostic territorial en santé mentale et pas justement seulement en psychiatrie, qui sont partiellement ou non couverts faute de données disponibles au niveau national. Notamment, je vais y revenir, la question des besoins, le champ de la prévention, le secteur social et médico-social, il est très faiblement, on va dire, renseigné au niveau national. Et puis après, les questions de parcours, la coordination, la continuité, on peut de manière cloisonnée décrire l'offre, décrire le recours aux soins, décrire ce qui se passe en ville, mais par exemple sur les données du recours à la médecine générale, on n'a pas le motif de la consultation, donc s'il n'y a pas de délivrance de médicaments, on ne saura pas qu'il y a eu un recours en médecine de ville pour des problèmes de santé mentale. Donc voilà, c'est pour montrer les limites de ce qu'on propose et que même sur les données objectives, il y aura besoin localement d'aller chercher d'autres informations. Donc cet atlas, bon, le contexte institutionnel, donc c'est une collaboration entre la DRES et l'IRDES, avec un comité de pilotage national. On essaye de s'articuler avec les travaux en cours de l'ANAP et Atlas Santé, qui est un système d'information qui se met en place pour les ARS, pour les aider dans l'élaboration de leur PRS. Voilà. Alors, une des premières questions qu'on s'est posées, c'est à quelle échelle géographique on produit des données. Donc, au début, on s'est dit, bon, faut prendre les territoires de la loi, les zones de proximité. Alors, est-ce que c'est les zones de proximité, les secteurs, les futurs, enfin, ou les territoires de santé mentale, les territoires de démocratie sanitaire, les GHT. Et on a aussi des territoires d'observation et de disponibilité des données. Donc, on a les IRIS qui ont été évoqués, les zones PMSI, qui correspondent aux codes postaux, plus ou moins, les communes, les bassins ou territoires de vie et les départements. Et donc, on a dû faire un compromis entre des problèmes de calendrier, puisque on avait envie de proposer des informations, pour la fin de l'année, ce sera plutôt pour le début 2017, mais assez rapidement pour que ça coïncide avec les agendas des acteurs et des agences régionales de santé. Un compromis avec la disponibilité des informations aux échelles géographiques où on souhaiterait les avoir, parce qu'il faut, quand on fait des diagnostics territoriaux, plutôt avoir des données exhaustives, c'est-à-dire des données d'enquête en population générale ou sur des échantillons, on ne peut pas les décliner facilement par territoire. Et puis, pareil, il y a des indicateurs qui ne sont pas pertinents à certaines échelles. On ne peut pas descendre à une échelle géographique trop fine si on veut, décrire que ce soit des recours aux soins, des zones d'attraction, de dessert des hôpitaux. Il y a des choses qui... Ou juste calculer une densité de lits ou de places à l'échelle d'une commune, ça n'a pas de sens, puisque l'aire géographique couverte est beaucoup plus grande. Et puis, des indicateurs qui ne sont pas fiables à certaines échelles géographiques, du fait de l'importance de la non-réponse sur les diagnostics, par exemple, dans le RIMP ou d'autres choses. Et après, l'objectif de cet atlas, c'est de fournir à différentes échelles des comparaisons avec la moyenne régionale ou nationale pour, justement, se questionner sur ces pratiques. Donc, notre choix, finalement, il s'est porté. Donc, pour les territoires de vie, alors les territoires de vie, c'est un découpage qui a été proposé par l'INSEE, c'est les bassins de vie. Et avec un découpage pour les zones urbaines qui était plus pertinent, parce que les bassins de vie étaient bien adaptés aux zones rurales, mais moins aux milieux urbains. Donc, qui correspondent en gros aux zones où les personnes vont pour d'autres services qui ne sont pas des services de santé, qui sont des services généraux. Voilà. Et donc, on utilise cette échelle-là pour tout ce qui est plus, entre guillemets, alors approche des besoins, enfin, plutôt contexte territorial et populationnel des territoires. Et du coup, on est revenu au département pour les indicateurs d'offres et de parcours, alors pour plusieurs raisons, bon, toujours le lien entre médico-social, soins sans consentement, et comme on l'a vu ce matin, le département a été souvent choisi pour les territoires de démocratie sanitaire, parfois pour les GHT, il y a quand même la limite départementale, et j'ai envie de dire, historiquement, le département, il correspondait aussi à une réalité de pratique spatiale des gens, puisqu'il avait été découpé en disant il faut une journée à cheval pour aller au chef-lieu du département. Donc ça correspondait à une réalité. Et alors autant elle est toujours valable, j'ai envie de dire, aujourd'hui dans les départements ruraux, où un département, ça a vraiment, je pense, une identité. Dans les départements urbains, c'est plus critique. Donc quelles données et quels indicateurs? Donc on a mobilisé plein de données. Avec, comme je le disais, le problème, c'est que le système d'information dans le champ de la santé, il reflète un peu les cloisonnements, les différents financeurs. Donc autant on peut avoir pas mal de données sur le champ de la santé qui étaient centralisées au niveau national, avec des recueils d'informations nationaux. Autant dans le médico-social, on est très en retard, et du fait que c'était beaucoup géré au niveau des départements, il n'y a pas encore de système d'information national sur le médico-social, ni sur les données des MDPH, qui nous permet vraiment de produire des données sur ce champ-là. Le secteur social étant géré par des associations, dans certains cas, on a encore moins de remontées au niveau national. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais insister sur le côté santé mentale et pas psychiatrie, parce que même les données, enfin, faut pas oublier quand on utilise les données d'un diagnostic qu'elles ne couvrent pas tous les champs et qu'il faudrait pas se limiter à ce que ces données montrent, alors qu'il y a plein de champs sur lesquels on n'a pas pu mettre de lumière. Donc je vais pas vous lister les sources de données, juste pour dire à la fin qu'on a essayé, du coup, en effet, de construire quand même des indicateurs. Autant, bon, les indicateurs d'offres ou de, on va dire, populationnels, comme on a vu dans la présentation précédente, sont plus faciles à construire. Autant des indicateurs vraiment de coordination, continuité, parcours, c'est plus difficile. Donc on essaye de les aborder un peu pareil comme l'a proposé la NAP dans ses portes d'entrée sur les parcours, en construisant des indicateurs de taux d'admission par les urgences, réhospitalisation. Pour le côté continuité des soins, des délais de consultation après la sortie de l'hospitalisation, d'observer une proportion de patients sans médecin traitant, l'existence de suivi spécialisé en amont ou en aval d'une hospitalisation, essayer de calculer des situations inadéquates. Voilà. Après, il y a des champs qui ne sont absolument pas couverts par les systèmes d'information nationaux, qui sont en gros la prévention et tout ce qui est inclusion sociale. C'est vrai que moi, je rêverais d'avoir un taux de personnes souffrant d'un handicap psychique en emploi ou des choses comme ça au niveau des territoires. Mais ça, c'est des données qui n'existent pas aujourd'hui. Donc la trame de l'Atlas, finalement, on a choisi une entrée un peu populationnelle, enfin un contexte territorial qui correspond en gros aux besoins. L'offre de santé, alors au sens large, justement, essayant de couvrir le champ sanitaire, médico-social et social. Et ensuite, un raisonnement par tranche d'âge pour les adultes, en distinguant les troubles mentaux fréquents d'un côté, les troubles mentaux sévères et durables. Là, c'était parce que certains indicateurs, comme les durées moyennes d'hospitalisation, ne vont pas avoir le même sens si on mélange des troubles qui n'ont rien à voir. Pareil pour les taux de réhospitalisation. Un focus sur les enfants adolescents, les personnes âgées, les détenus. Et là, il y a des réflexions en cours pour faire aussi des focus sur les populations précaires et les addictions, mais on a peu de données disponibles sur ces populations, ni sur l'offre qui est directement dédiée à ces populations. Donc là, pour le contexte territorial, ça reprend en partie ce qui a été présenté dans la présentation précédente. Donc on essaye un peu, par rapport à ce qui est dit dans la littérature, qui peut expliquer des besoins plus importants en santé mentale. Donc c'est le fait de le zonage en aire urbaine, le pourcentage de personnes nées à l'étranger, l'isolement à la fois social et spatial, on va dire, et la précarité qui, on le sait, enfin, sont des facteurs qui favorisent, c'est peut-être pas le terme, les problèmes de santé mentale. Et on essaye aussi de prendre en compte tout ce qui est structure d'hébergement social, enfin la densité de ce type de structure sur un territoire peut augmenter les besoins à couvrir dans ces territoires-là. Bon, sur l'offre de santé, c'est plus classique, c'est des densités de structure. On a des données sur les GEM, les CLSM, des distances d'accès pour ne pas raisonner qu'en densité. Je vais passer vite. Oui, avec des choses sur le médico-social, mais très peu, parce qu'il est difficile d'identifier ce qui est réellement dédié au handicap psychique dans les données sur le secteur médico-social dont on dispose. Alors, sur les troubles mentaux fréquents, donc on a des données, alors ce qu'on a appelé prévalence, en fait c'est prévalence de la prise en charge, là c'est l'assurance maladie qui a essayé d'identifier dans ses bases de données via le fait que les personnes soient hospitalisées, soient en ALD ou un arrêt de travail de plus de 6 mois, les personnes ayant un trouble psychiatrique avec un diagnostic, en tout cas dans ses bases de données. Ouais, je vais passer vite, donc c'est des indicateurs comme je disais de parcours, de continuité qu'on a essayé de construire, qui seront proposés à l'échelle des départements. La même chose sur les troubles mentaux sévères et persistants, avec beaucoup plus de choses sur notamment les situations inadéquates, que ce soit les hospitalisations au long cours, mais les hospitalisations aussi à temps partiel au long cours, les soins sans consentement. On a des données aussi de la justice sur les saisines des juges des libertés et de la détention. Vous aurez le diaporama. Pareil, un focus sur les enfants et les adolescents, où là, on peut quand même décrire l'offre, alors toujours psychiatrique spécifique, un peu moins les autres offres environnantes, on va dire, avec pareil des choses qu'on mesure mal dans les données, mais sur notamment les hospitalisations en secteur de psychiatrie générale. Donc ça, on ne peut pas vraiment l'aborder dans les données. Mais en tout cas, en s'intéressant quand même aux hospitalisations qui sont en pédiatrie et en psychiatrie, aux délivrances de psychotropes chez ces enfants. La même déclinaison pour les personnes âgées, avec des indicateurs spécifiques à ces populations. Pareil sur les détenus, et je passe vite. Voilà. Et donc pour finir, c'est des données, comme je l'ai dit, qui sont à compléter localement. Et c'est vrai que chaque région, finalement, a des ressources propres, soit des enquêtes qui ont eu lieu en Île-de-France. Il y a eu des choses sur les enfants et familles sans logement, où la santé mentale a une grande place, sur les sans-abri aussi. Il y a des centres ressources, on va dire que ce sont les centres régionaux d'éducation pour la santé, les CREAI, les observatoires régionaux de santé. Il y a des régions où il y a des fédérations régionales en santé mentale. Il y a des diagnostics locaux qui ont été faits dans le cadre des conseils locaux de santé mentale ou des ASV qui peuvent être mobilisés. Pareil, il y a des enquêtes sur les délais d'attente, parce que c'est vrai que l'accessibilité, on la mesure mal aussi. Ce n'est pas une densité d'offres qui nous permet de dire si les soins sont accessibles. On a parlé des outils cités. Et pareil, je pense que ce sera peut-être évoqué cet après-midi, la NAP qui a développé des outils justement pour un peu toutes ces questions qui sont dans les trous du système d'information sur les délais, sur la coordination, sur la place des usagers. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas mesurer. Donc voilà, pour conclure, l'Atlas, c'est une toute petite partie du diagnostic, mais c'est déjà ça. Et on espère le mettre à disposition au début d'année 2017. Sous quelle forme ? Il y a une version ouvrage, mais qui est plus un produit visible. Et que l'idée, c'est surtout de le mettre à disposition sous forme d'outils cartographiques. Donc c'est en cours de discussion sur quel support, avec que ce soit la TIH ou Atlas Santé, et qui permettrait à terme une actualisation et aussi des zonages à façon pour ne pas se limiter à l'échelle départementale de certains indicateurs. Voilà.
Et dans quelles conditions ? Vous le mettrez à disposition dans quelles conditions ? C'est accessible.
Oui, nous l'idée c'est vrai qu'on travaille avec l'adresse sur source, disons on construit tout un set d'indicateurs et la méthodologie pour les construire et qu'on aimerait qu'ensuite les gens s'en emparent, puissent les recalculer à d'autres échelles. Il y aura vraiment une version pédagogique, on va dire, de l'Atlas sur à la fois les limites comme ça a été évoqué et comment les approprier.
Ça veut dire que c'est accessible gratuitement.
Oui.
Voilà. Ça. Bien, mais écoutez, merci beaucoup pour cette présentation.
Comme on la sollicite toujours beaucoup et en toute occasion, et qu'elle est toujours disponible pour remercier Magali. La remercier surtout d'avoir accepté de faire finalement un séjour très très long en psychiatrie, en santé mentale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui cherchent avec autant de constance dans la durée et qui produisent des données, pour vous montrer qu'il va quand même y avoir des choses, et je crois qu'on peut l'en remercier, parce qu'effectivement, je pense que les personnes qui travaillent sur le sujet, je dirais qu'elles doivent peut-être se compter sur les doigts d'une seule main, tout au moins avec cette permanence et cette régularité. C'est important à souligner. Sur ce, on va revenir évidemment sur ces questions cet après-midi avec la nappe et autres.